Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est maintenant l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique avec la Gazette présidentielle.
Philippe Le Caplin.
À deux semaines du premier tour, c'est maintenant. À décrypter avec vous, Bernard Sananès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Institut de sondage ELAB. À deux semaines donc du premier tour, les candidats font feu de tout bois avec de grands meetings de Paris, que ce soit au Trocadéro ou au Zénith, à Marseille, en passant par Toulouse. Et les militants sont priés d'agiter des drapeaux tricolores, de faire beaucoup de bruit devant les caméras des chaînes de télévision pour tenter de réveiller des électeurs qui semblent avoir davantage la tête à la guerre en Ukraine ou à la crise sanitaire sans fin. Alors RFI a envoyé ses journalistes sur ces différents meetings. C'est Jean-Luc Mélenchon, crédité entre 13 à 15% des voix, qui jouait le plus gros ce dimanche sur la plage du Prado à Marseille, Yoram Melloul. Vous étiez au bord de la Méditerranée pour assister à ce meeting, sachant que Jean-Luc Mélenchon n'a pas choisi Marseille par hasard.
Oui, on a vu un Jean-Luc Mélenchon plutôt optimiste et combatif se présenter sur une grande estrade posée sur les plages du Prado à Marseille. L'occasion pour le candidat d'avoir une belle image de lui, discourant devant la mer Méditerranée. Une mer qu'il a longuement admirée hier pendant les préparatifs de son rassemblement. Les sympathisants sont venus de toute la région. Les insoumis espéraient en réunir 50 000 dans un meeting géant, ce qu'avait déjà fait le député élu dans les Bouches-du-Rhône, ici à Marseille, lors de ses précédentes campagnes. Ratés, ils étaient moitié moins nombreux. Mais cela n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon de méthodiquement égrener son programme et de réagir à l'actualité avec l'ardeur qu'on lui connaît. Guerre en Ukraine, refus du nucléaire et surtout explosion des prix et de la précarité. Devant l'une des villes les plus pauvres de France, Jean-Luc Mélenchon a voulu donner une forte tonalité sociale à son discours en taclant notamment la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron et les dernières propositions du président candidat concernant le RSA.
Et puis, Yoram Melloul, vous avez entendu le candidat à la France Insoumise dire ceci à propos du match retour Macron-Le Pen au deuxième tour comme il y a 5 ans.
On se retrouve entre gens de bonne compagnie pour un deuxième tour low cost. D'un côté, l'actuel propriétaire des lieux et ses amis. De l'autre, l'héritière de la firme familiale après qu'elle se soit débarrassée du Doberman qui était monté sur la table. Au fond, tout ça, c'est la même touillette. Monsieur Macron, c'est le programme économique de Madame Le Pen, plus le mépris de classe. Madame Le Pen, c'est le programme économique de Monsieur Macron, plus le mépris de race.
Et puis Jean-Luc Mélenchon a dit tout à l'heure sentir l'odeur du second tour, ce qui serait possible s'il y avait une union de la gauche, comme celle qui avait permis au Parti Socialiste de François Mitterrand, auquel appartenait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon à l'époque, de prendre le pouvoir en 1981. Bernard Sananès, de l'Institut de sondage ELAB, pourquoi la gauche ne comprend-elle plus que l'union fait la force.
81, 40 ans, vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans.
Voilà. Absolument.
Bien parce que la gauche est profondément divisée, pas seulement dans les états-majors, pas seulement dans les partis politiques, mais cette thèse des gauches irréconciliables qu'avait formulée Manuel Valls est réelle. Il y a des différences marquantes entre les différents électorats de gauche, que ce soit sur les questions économiques et sociales, par exemple sur le rapport à l'entreprise, que ce soit sur les questions régalienne, que ce soit également sur la question du nucléaire, on voit bien que l'unité de la gauche, qui en 1981, vous l'évoquiez, correspondait à une vraie réalité d'un peuple de gauche uni, notamment sur la question sociale. Là, il y a une unité sur la question sociale, mais il y a de vraies divergences par ailleurs.
Et une inversion des poids électoraux, si je puis dire, parce qu'on avait un parti socialiste avec derrière Parti communiste et d'autres formations radicales. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est d'abord Jean-Luc Mélenchon et un parti socialiste qui devrait disparaître dans 2 semaines.
En tout cas, qui ne serait plus, si les sondages le confirment, qui ne serait plus qu'un parti d'élus, un parti d'élus qui reste très implanté, on l'a vu encore aux élections régionales, mais un parti qui a du mal dans la course présidentielle. C'est vrai que ça fait 2 fois que Jean-Luc Mélenchon prend le leadership de la gauche pour cette élection présidentielle. Alors il est aujourd'hui, vous l'avez dit, entre 13 et 15% des suffrages. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, en 2017 aussi, avait connu une progression très forte dans les dernières semaines, mais il était plus seul sur son espace. Là, aujourd'hui, il a la concurrence à la fois d'un Yannick Jadot, mais également d'un Fabien Roussel. Et ce qui est intéressant pour le Parti communiste, ce qui est intéressant de noter, c'est que même quand Jean-Luc Mélenchon progresse, Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, ne recule pas. Si Jean-Luc Mélenchon veut arriver au second tour, il lui faut, comme on dit dans un mot qui n'est pas très joli, siphonner les voix de Fabien Roussel et prendre un peu des voix de Yannick Jadot. Pour l'instant, il n'y est pas encore.
À l'autre bout de l'échiquier politique maintenant, l'autre candidat qui espérait faire aujourd'hui une démonstration de force, c'est Éric Zemmour, qui réunissait son monde en face de la Tour Eiffel, sur la place du Trocadéro à Paris. Meeting qui provoque déjà une polémique. Macron, assassin, ayant été scandé par une partie de la foule au moment où Éric Zemmour énumérait une série de faits divers. Vous étiez sur place pour RFI, Valérie Gasse. Alors, les précédents grands meetings au Trocadéro n'avaient pas porté chance à Nicolas Sarkozy en 2012, à François Fillon en 2017, mais Éric Zemmour veut y croire avec le même décorum.
Oui, il a tenté de s'emparer de ce lieu symbolique, la place du Trocadéro, et qui d'ailleurs, il faut le reconnaître, était vraiment rempli. Alors, je ne sais pas s'il y avait 100 000 personnes comme il a voulu l'annoncer dès son arrivée, mais il y avait en effet une forêt de drapeaux tricolores que les partisans d'Éric Zemmour agitaient constamment pendant toutes les interventions qui ont eu lieu, parce qu'avant le candidat, il y a eu le banc et l'arrière-banc des soutiens politiques, certains totalement inconnus du grand public jusqu'à Marion Maréchal. Le public était en effet, vous le disiez, extrêmement réactif. Chaque parole entraînait des cris. On est là, on est chez nous, on vous aime. Et bien sûr aussi des huées chaque fois qu'un adversaire était cité. Pécresse, Le Pen et bien évidemment Emmanuel Macron. Tous y ont eu droit. Il y a eu ces fameux Macron assassins, en effet, scandés pendant le discours. On les entendait bien et il n'y a pas eu de réaction du candidat à ce moment-là. Un petit peu plus tard, Éric Zemmour, interrogé par les journalistes, a fait savoir par l'intermédiaire de son équipe qu'il condamnait ses paroles.
C'est dangereux pour la République, ce n'est certainement pas ça la droite, ce n'est pas ma France, a déclaré tout à l'heure sur Twitter Valérie Pécresse, alors que de son côté, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, a jugé indigne et intolérable ce qui a été scandé. Éric Zemmour, qui a bien sûr martelé Valérie Gasse, son discours fait de remplacement, de décadence et de grandeur à retrouver.
Oui, tout à fait. Il a eu le discours habituel, sa vision d'une France menacée, notamment par l'expansion de l'islam face à laquelle il défend l'assimilation. Mais en fait, ce que jouait Éric Zemmour sur cette place du Trocadéro, qui n'est pas un lieu, on l'a dit, comme, tout à fait comme les autres à droite, c'est de faire, d'aller séduire ses électeurs de ce qu'on appelle la droite Trocadéro, surtout après le meeting de François Fillon en 2017, qui avait essayé de relancer sa campagne à ce moment-là. C'est une droite conservatrice à laquelle Éric Zemmour a fait des appels du pied, qu'il a tenté de séduire avec ce meeting. Il l'a dit d'entrée, le seul candidat de droite, c'est moi. Valérie Pécresse est une centriste, Marine Le Pen est une socialiste en économie. Alors on va voir si ça a marché et s'il arrive après cette mobilisation à relancer la machine avant le premier tour.
Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage Elab, à combien est Éric Zemmour dans les sondages en ce moment ?
Il est entre 10. Sondage Elab, 11,5 chez certains de nos confrères, là où Marine Le Pen est entre 18 jusqu'à 20% dans le dernier sondage Elab. Donc pour l'instant, effectivement, Marine Le Pen a, comme on dit en sport, fait le trou. Elle a nettement pris l'avance, alors qu'à un moment, ils étaient touche-touche, et même que Éric Zemmour, dans plusieurs vagues d'enquête, a devancé la présidente du Rassemblement National. On avait l'impression cet après-midi, finalement, que Éric Zemmour savait que ça allait être difficile de rattraper Marine Le Pen et que son enjeu cet après-midi, devant la place du Trocadéro, devant ce peuple de droite qui était sa cible première, c'était surtout et avant toute chose de devancer Valérie Pécresse pour compter dans l'après-présidentielle. D'ailleurs, quand il a commencé son discours, la première phrase quand il a dit « Pourquoi j'ai choisi le Trocadéro ?», c'est pour laver les affronts de la droite. Donc on voit bien que le candidat de Reconquête espère convaincre un certain nombre d'électeurs de droite qui ne croiraient plus aux chances de Valérie Pécresse de voter pour lui pour peser sur la recomposition de la droite. Il a appelé à l'union des droites, il a cité Éric Ciotti, il a cité Bellamy, il a cité Wauquiez, il a cité Morano comme des partenaires possible d'une union des droites post-présidentielle.
Les gens qui sont actuellement au parti Les Républicains. Vous parliez de Marine Le Pen. Alors la candidate du RN a choisi, elle, une sorte de contre-programmation en se rendant ce week-end en Guadeloupe. Julien Chavannes, c'est la mi-journée aux Antilles. C'est la première fois depuis que la candidate du RN est sur l'île. Là, d'ailleurs, où son père n'avait jamais pu poser le pied.
Oui, Marine Le Pen avait en tête une date, 1987. Son père, Jean-Marie Le Pen, a essayé de venir ici. Je dis essayer parce qu'il n'a pas pu débarquer. 3000 militants avaient investi le tarmac de l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Il n'était pas sorti de l'avion. Ces manifestants l'avaient empêché de sortir, ce qui reste un traumatisme, évidemment, de la dynastie Le Pen.
Enfin, cela dit, le déplacement de la fille, Marine, a été compliqué lui aussi.
C'est vrai qu'elle était là pour montrer qu'elle était dédiabolisée. Vous savez, cette stratégie de normalisation, de montrer qu'elle est une candidate démocrate comme les autres. Eh bien, ça avait bien commencé. Une cinquantaine de militants l'attendaient hier à l'aéroport à son arrivée. Comité d'accueil chaleureux, des selfies, des bises. Sauf que, ça s'est compliqué. Dès sa visite à l'usine de production d'eau locale qui se trouve à 30 km de Pointe-à-Pitre, là, elle a trouvé une chaîne, donc porte close. Elle n'a pas pu visiter cette usine. Deuxième étape, elle, c'est plus compliqué. Elle se trouvait donc à son hôtel pour une interview sur la télévision locale. Une vingtaine de militants nationalistes, indépendantistes, qui considèrent que la France est encore une puissance coloniale ici, a investi son hôtel, a interrompu l'interview qu'elle menait de façon enregistrée. Ses gardes du corps ont dû la protéger. Il y a eu en tout cas tentative d'approche, pas forcément de coups. Sa conseillère presse, elle, a été touchée au dos. Il y a eu des plaintes déposées d'ailleurs par Marine Le Pen. Et depuis, c'est compliqué parce que ce matin, elle devait faire un marché. Le marché a été repoussé finalement en fin de matinée et ça s'est pas bien passé. Elle est restée un quart d'heure ici et des manifestants, encore les mêmes qu'on a vus hier, étaient là pour la traiter de raciste, de fasciste. Mais Marine Le Pen avait quand même tenu à venir faire cette visite. Quoi qu'il en soit, l'image de carte postale qu'elle souhaitait renvoyer en vis-à-vis avec Éric Zemmour à son grand meeting du Trocadéro, bien, cette image, cette volonté, cette stratégie est un peu gâchée, évidemment, puisque l'héritage de Jean-Marie Le Pen continue de peser sur les épaules de Marine Le Pen encore aujourd'hui en 2022.
Pour mémoire, quel avait été le score de Marine Le Pen à la dernière présidentielle il y a 5 ans en Guadeloupe ?
Elle est arrivée à la quatrième place au premier tour avec 13% des voix et elle avait fait un score d'une vingtaine de points au second tour, ce qui est une contre-performance par rapport à ses scores dans les Outre-mer où elle a eu de très très bons scores en 2017.
Julien Chavanne à la Guadeloupe pour RFI, Bernard Sananès de l'Institut de Sondage Elab. Marine Le Pen bénéficie d'une dynamique favorable parce qu'elle a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat et non sur la sécurité et l'immigration comme Éric Zemmour.
Oui, en tout cas parce qu'elle n'a pas réanglé sa campagne sur la sécurité ou l'immigration, où elle est déjà considérée par un certain nombre d'électeurs comme mieux-disante, parce qu'elle a pendant des années capitalisé sur ce sujet. Et c'est vrai que sur les enjeux de sécurité, malgré Éric Zemmour, elle reste perçue aujourd'hui comme la plus convaincante dans l'électorat. Mais vous avez raison, elle a choisi depuis plusieurs mois de capitaliser et de s'adresser à ces Français qui sont à la fois exaspérés et désespérés. Désespérés par une situation sociale qui ne s'améliore pas, désespérés par des conditions économiques qui sont sous pression en matière de pouvoir d'achat. Et on le voit dans les enquêtes, il y a aujourd'hui plus de 4 Français sur 10 qui disent qu'ils ne bouclent pas leur fin de mois sereinement. C'est dans cet électorat-là que Marine Le Pen devance très nettement Emmanuel Macron. À l'inverse, quand vous avez une fin de mois sereine, entre guillemets, à ce moment-là, le vote Emmanuel Macron est plus fort. Donc on le voit quand on regarde toutes les enquêtes, c'est la variable du pouvoir d'achat qui sera sans doute la plus déterminante pour analyser et comprendre ce qui va se jouer le 10 et le 24 avril.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Ragaillardi par son bras de fer avec Total Energy, qu'il a accusé de complicité de crimes de guerre en Ukraine, Yannick Jadot, autour de 6% dans les sondages, a choisi, lui, aujourd'hui, le Zénith de Paris pour organiser son premier grand meeting, Anthony Lattier.
Oui, premier, en tout cas, plus gros meeting de sa campagne. 4000 personnes. Alors, 4000 personnes, ça n'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais sur l'échelle écologiste, c'est important parce que chez les écologistes, on n'a pas la culture du chef, on n'a pas la culture de la démonstration de force, comme on a pu le voir par exemple au Trocadéro. Il y avait donc dans la salle 3 anciens candidats, Noël Mamère, Dominique Voynet, Eva Joly. Sur la forme, c'était un meeting-concert plus qu'un meeting, puisqu'il y avait la présence sur scène de plusieurs artistes, l'hymne ukrainien a été chanté. Et puis sur le fond, un message martelé par Yannick Jadot, déjouons les pronostics. Il a étrié le bilan d'Emmanuel Macron en matière climatique, président de l'inaction climatique, avec une charge en particulier contre les lobbies des pesticides, de la chasse, de l'élevage industriel, des consultants privés. C'est la République des lobbies ou la République écologiste.
Et bien sûr, à la tribune, il a lancé l'incontournable « Votez pour moi ».
Oui, votez pour moi, mais surtout, votez utile. Il a essayé de contrecarrer l'offensive des partisans de Jean-Luc Mélenchon, qui appelle tout le peuple de gauche à voter utile, à voter Mélenchon pour que Mélenchon soit au second tour. Eh bien non, Yannick Jadot a dit l'écologie est le vote utile. Il a dit que le vote de conviction était le vote utile et pas le vote par défaut. Et il a rappelé notamment les positions de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie. Il a parlé de complaisance. Message aussi aux électeurs de gauche qui ont voté Emmanuel Macron en 2017. Il a dit « Regardez, jugez, votez ». Message enfin, Philippe, aux jeunes, à la génération climat. « Faites irruption dans ce scrutin », a-t-il dit. « Rejoignez-nous ». C'est un enjeu important pour les écologistes parce que pour le moment, la préoccupation environnementale des jeunes ne se transforme pas en vote écologiste.
Anthony Latier du service politique de RFI. Yannick Jadot a 6% dans les intentions de vote. Bernard Sananès, comment expliquez-vous qu'à 1% près, le parti écologiste ne pourra pas se faire rembourser ses frais de campagne ?
Oui, c'est vrai, très étonnant de voir alors que l'enjeu environnemental est au cœur des préoccupations des Français. 80% d'entre eux pensent qu'il y a urgence à agir, et ce, malgré la crise sanitaire, malgré la crise en Ukraine. On voit que l'écologie politique n'arrive pas à confirmer. Alors c'est vrai que pour les écologistes, l'élection présidentielle n'a jamais été une élection facile. On sait que seul Noël Mamère a passé la barre des 5% en 2002. Deuxièmement, l'écologie est aujourd'hui recherchée par les jeunes. Mais les jeunes, pour l'instant, ne votent pas pour Yannick Jadot. Ils votent plutôt pour Jean-Luc Mélenchon, ils votent pour Emmanuel Macron, les jeunes des milieux populaires votent pour Marine Le Pen. Et si Yannick Jadot fait un peu plus chez les jeunes, il n'arrive pas à retrouver la performance qu'il avait fait aux européennes, où là, le vote jeune s'était porté largement pour les écologistes. Il y a sans doute la pression des questions du pouvoir d'achat, la pression de la fin de mois, et puis la difficulté à proposer un programme politique global qui, sans doute, explique ce, pour l'instant, mauvais résultat.
Emmanuel Macron, lui, est autour de 28% des intentions de vote. Dans deux semaines, le candidat à La République En Marche à sa réélection attendra demain pour s'offrir un déplacement de campagne à Dijon. Ce sera sur les thèmes sociaux. Pour l'instant, la parole électorale est donc dispensée par ses lieutenants, comme par exemple par Elisabeth Borne sur Europe 1, qui est revenue sur l'annonce de conditionner le versement du revenu minimum qu'est le RSA à des heures de travail. Elle avait fait polémique et elle parle donc de période d'activité.
On ne vit pas bien avec 575 euros par mois. Il faut absolument proposer un accompagnement. Emmanuel Macron a très clairement dit qu'il voulait qu'on fasse pour les bénéficiaires du RSA ce qu'on fait depuis le 1er mars pour les jeunes avec le contrat d'engagement jeune. Ça peut être des ateliers collectifs pour reprendre confiance. Ça peut être des mises en situation, des immersions en entreprise pour découvrir des métiers. Ça peut être des remises à niveau sur des compétences de base. Ça peut être de la formation professionnelle.
Donc là aussi, on voit qu'on est clairement dans le pouvoir d'achat, Bernard Sananès. Sur la campagne d'Emmanuel Macron, l'activisme diplomatique du président est-il en train de se transformer en handicap pour le candidat, puisque ça l'empêche de se concentrer sur les sujets domestiques qui figurent en tête des préoccupations des Français? Et vous parliez de pouvoir d'achat.
Oui, en tout cas, le président sortant a mieux réussi son entrée en campagne finalement que le candidat Macron. C'est très net, le président sortant a bénéficié, on l'a vu dans les sondages pendant 8 jours, d'un effet drapeau, comme on dit, avec une progression très forte. Il garde un niveau d'intention de vote supérieur à avant la crise ukrainienne. Mais c'est vrai qu'il y a comme s'il y avait une petite déception par rapport à son programme et par rapport au fait qu'il ne fasse pas véritablement campagne. On le voit dans son électorat. On le voit aussi dans les seconds tours. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de mesures, vous avez parlé avec votre reportage du RSA, c'est le cas également sur les retraites, réaffirment un peu une opposition sociale. On voit par exemple un certain nombre d'électeurs de gauche qui disent qu'ils seraient même prêts à voter Marine Le Pen contre Emmanuel Macron.
Vous parlez du deuxième tour. Emmanuel Macron voit l'écart se réduire sensiblement cette semaine avec Marine Le Pen. Il serait élu avec 56% des voix au second tour, si l'on en croit l'IFOP, c'est-à-dire avec une avance bien moindre qu'il y a 5 ans.
Oui, cela nous dit quoi ? Cela nous dit que ce scrutin n'est pas acquis. Il reste 15 jours. 30% des Français disent qu'ils peuvent encore changer d'avis. Les reports de second tour sont très incertains. Et Emmanuel Macron, s'il reste le favori, est aujourd'hui un favori qui est menacé, on peut le dire, par une dynamique Marine Le Pen et également par le challenger Mélenchon qui poursuit une dynamique électorale très forte depuis plusieurs semaines.
En un mot, le risque d'une forte abstention pourrait être préjudiciable au président sortant ?
Il peut être préjudiciable à beaucoup de candidats, pas forcément plus à Emmanuel Macron que à Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. On sait que les milieux populaires sont ceux qui s'abstiennent le plus.
Merci Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB. La politique encore sur RFI, ce sera demain matin à 7h20 l'invité de la rédaction, Jérôme Rivière, vice-président du parti Reconquête et porte-parole d'Éric Zemmour. Dimanche politique était réalisé par Valentin Van Aire ce soir.